L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion qui reçoit des associations du Finistère. Parmi celles qu'on reçoit régulièrement, il y a la Maison de l'agriculture biologique qui s'adresse certes aux agriculteurs, mais parfois aussi à nous, les simples jardiniers ou juste propriétaires d'un morceau de gazon avec des haies autour. Et même cette parcelle génère des déchets, potentiellement en tout cas. Ah, le sac d'herbe tondue, sac en plastique bien sûr, déversé sans égard sur un tas de compost à la déchetterie. Ah, les petits morceaux de ce sac qu'on retrouve quelques semaines ou mois plus tard dans son terreau émanant de la même déchetterie. Soupir, soupir, soupir. Avec nous aujourd'hui, Charlie Rio qui accompagne souvent le grand public dans des opérations de jardinage sans pesticides et aujourd'hui donc presque sans déchets verts. Et Philippe Lebody, qui est citoyen, mais qui a mis en place une opération de sensibilisation pour gérer différemment les matières organiques en déchetterie. Et puis aussi, il sera question de micro-fragmentation de ces plastiques. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, j'ai envie de lancer le débat avec la question qui fâche, peut-être ou pas. C'est que finalement, comment est-ce qu'on définit un déchet au jardin? Un déchet, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête?
Un déchet, c'est ce qu'on jette. Le principe, il est là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que dans le Finistère, on est les champions. On est les champions du déchet vert. C'est des tonnages qui sont les plus élevés qu'ailleurs. Parce qu'on a la chance d'avoir notre climat qui est doux et humide tout au long de l'année.
Qui fait pousser les plantes.
Et le jardinier, il a une très mauvaise habitude dans le jardin. C'est que quand ça pousse, il coupe. Et le jardinier, il a une autre mauvaise habitude, c'est qu'il a envie que ça pousse vite. Donc plus ça pousse vite, plus on coupe. Et après, il y a cette question de savoir ce qu'on fait de tous ces matériaux qu'on coupe. Et à un moment, les gens, ils mettaient dans un coin du jardin, ils faisaient un tas, ou d'autres personnes jetaient ça dans un coin. Et donc il y avait des amoncellements de matériaux végétaux dans plein d'endroits. Donc les collectivités locales se sont emparées de ça et ont proposé aux gens de stocker ces matériaux-là à différents endroits. Et ça, c'était les aires de déchets verts en déchetterie. Aujourd'hui, ça déborde de partout. Hein. Les tailles sont énormes, on ne sait plus quoi en faire, ça coûte énormément d'argent. Et on a un autre souci qui est que tout ce qu'on enlève dans le jardin, tout ce qui sort, eh ben, il n'est plus là.
On l'appauvrit.
On tire dessus, on l'appauvrit. Et du coup, de plus en plus, on dit qu'il faut redonner ces éléments-là au jardin, travailler sur un cycle, un cercle vertueux de l'économie circulaire et que la matière du jardin puisse rester dans le jardin et nourrir.
Voir le déchet comme une ressource. Philippe Lebody, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi est-ce que ce sujet vous tient à cœur en parlant assez près du micro?
Parce que ça fait quoi, une dizaine d'années que je fais l'entretien de jardin et pour moi, pour moi, c'est une ressource, c'est clair. Je suis à fond sur le compostage. Et puis,
Vous avez un jardin?
Non, assez peu. Si, j'ai une cinquantaine de jardins à travers mes employeurs.
D'accord.
Et du coup, ouais, j'ai l'habitude de m'approprier ces jardins, d'ailleurs. C'est plus totalement leur jardin, c'est plutôt les miens, après.
Les gens vous laissent faire?
Oui, plutôt, parce que j'ai du mal à ne pas avoir d'initiative, quoi. Donc... Et donc, je ne me souviens plus de la question.
Bon, c'était pourquoi est-ce que ça vous intéressait, cette question quoi,
pour moi, c'est clairement une ressource. C'est une ressource et c'est vrai qu'au fil du temps, quelques personnes m'ont agacé au sens où je les voyais balayer. Ils font du jardin avec une balayette et une pelle. Et pour moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Si, il y a une vision du propre, quoi, immédiate, mais ça s'arrête là. Et souvent, c'est des terrains en plus qui sont assez pauvres. Donc au final, leur jardin n'est pas si joli que ça parce que ça manque de matière, d'énergie, de ressources. Et j'ai toujours adoré ce qui était dans le sol, les vers, cette décomposition. Et puis, ça donne aussi un peu plus de sens de me dire que quand je coupe, c'est pas qu'un problème. J'enlève de la matière, mais qui pourrait être valorisée et qui est valorisable. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec cette notion de déchet vert. Quoi, parce que...
Rien ne devrait être un déchet vert finalement au jardin.
Ouais, c'est un déchet vert parce qu'on l'amène à la déchetterie. Sinon, C'est pour ça que le terme qui était apparu à un moment sur un des articles du Télégramme, là, le terme coupe de jardin me plaît assez parce que on enlève un peu cette image négative du déchet qu'on a envie de débarrasser,
d'évacuer,
simplement, quoi.
D'évacuer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et alors justement, qu'est-ce qui n'est pas un déchet d'après vous ? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser ? Donnez-nous des exemples très concrets alors.
Bah, l'herbe déjà, c'est...
Le gazon,
c'est super facile. Pour faire par exemple des courges dans un petit coin de jardin, on laisse l'herbe s'accumuler, on met un pied de courge là-dessus, bah, c'est l'explosion. Les cosmos par exemple, l'opération a démarré avec ça, où j'ai repiqué des cosmos mi-juin.
À quel endroit ?
Donc à la déchetterie de Daoulas. Et donc j'ai repiqué simplement 5-6 pieds.
Donc des cosmos, c'est des fleurs en fait.
C'est des fleurs annuelles, ouais. qui sont assez jolies. Et surtout là, depuis août jusqu'à fin octobre, c'est un vrai feu d'artifice. Et là, bah, j'ai simplement donc repiqué ça sur un espace, une aire, à côté à la déchetterie, là où il y avait un peu d'herbe. Une zone que habituellement les ATO entretient. Passe un petit coup de débroussailleuse. Et ça faisait un moment que j'ai repéré cet endroit. Je me dis, c'est dommage, c'est juste un espace intermédiaire neutre. Et ce serait peut-être un moyen de communiquer sur des pratiques différentes. Et donc, j'ai repliqué des cosmos, 4 ou 5, parce qu'il m'en restait un matin. Et j'ai repris de l'herbe qui avait été déposée pour justement pailler. J'ai mis une bonne couche, hein. J'ai dû mettre bien 10 cm. Ça, c'était mi-juin. J'ai pas eu besoin d'arroser parce que de toute façon, j'avais pas vraiment d'eau. Et ça s'est installé gentiment, tranquillement. Et là, depuis mi-août, c'est le début du feu d'artifice. Et puis, ça fait plein de graines. Et...
Ouais, c'est beau. Puis, ça attire les insectes pollinisateurs, ouais. Accessoirement.
Et donc, clairement, pour les cosmos, chez mes employeurs, c'est souvent une entrée pour leur montrer que, avec un petit mètre carré d'herbe, on peut faire quelque chose de simple, même si on n'y connaît pas grand-chose au jardin. Et on commence à voir que les déchets verts, entre guillemets, deviennent une ressource. Quoi.
Sinon, ouais. Évidemment, Charlie Rio, il y a le compost. Hein, c'est ça, le compost.
Oui, en fait, il y a l'idée de tout ramener au sol, hein, rendre au sol ce qu'on a pris du sol. Il y a plein de moyens différents de faire ça. Il y a le compost, il y a le paillage. Il y a aussi, on parle aujourd'hui de lasagne, recréer des sols dans des endroits très, très pauvres en mettant des couches de matériaux pour nourrir la vie du sol et tout ça. Donc il y a plein de manières de recycler les matériaux. On parle même de haies de benj. Donc c'est, par exemple, on est dans un jardin un peu grand, on a des grandes branches, on n'a pas de broyeur. Mmh. Si on a une cheminée, on coupe et puis ça part au feu. Mais si on n'a pas de cheminée, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une technique qui a été développée en Angleterre qui marche très bien, c'est de mettre quelques poteaux dans le sol, et entre ces poteaux, accumuler toutes les grandes branches. Et donc, ça fait une haie un peu comme une haie
mur.
En plessis, ouais. un petit mur.
C'est comment le terme ? Parce qu'en fait, benj. Je l'ai fait, mais je ne savais pas le nom.
Benj.
Ah ouais, benj.
Vous étiez
benj.
Le monsieur Jourdain du benj. Vous benjiez sans le savoir.
Ouais. Sans le savoir, ouais.
Incroyable. Oui, je l'ai fait aussi, mais alors, il y a quand même. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais il y a des inconvénients. Enfin, là, en l'occurrence, je trouvais que c'était vraiment un abri spécial limaces. Bon.
Oui, mais aussi hérisson.
Il n'est pas venu malheureusement.
Et crapaud. Et effectivement, ça va attirer de la vie. Ça va avoir une autre fonction qui va être d'attirer de la vie. Le premier qui vient, c'est les limaces. Hein. La limace, elle a un rôle super important au jardin.
Oui, il ne faut pas l'éradiquer complètement, on est d'accord.
Même, il faut presque la laisser encore plus et se poser la question de comment on peut trouver l'équilibre. Quoi. La limace, s'il n'y a pas la limace, on a les pied dans une espèce de bouillasse qui n'est même pas de la gadoue, qui est du végétaux en décomposition, ça sent pas bon. Et la limace, elle vient digérer tout ça. C'est le premier système digestif du jardin. Et si elle n'est pas là, c'est un gros bazar. Quoi. Et du coup, effectivement, dans le jardin, pour le jardinier, c'est une catastrophe les limaces, parce que ça mange plein de choses et tout. Mais il faut comprendre la notion de biotope, écosystème, c'est grande notion, et le fait de ramener des matériaux, des branches, des choses comme ça, ça va créer des espaces pour les écosystèmes qui vont attirer des bestioles qui vont manger les limaces par la suite. Et donc transformer un tas de branches, on fait de la taille, on a un tas de branches, on ne sait pas quoi en faire, et l'aménager dans un endroit du jardin, ça va apporter vraiment une plus-value. Et ce déchet-là, il sera non seulement recycler, mais en plus, il va apporter des choses en plus pour le jardin et pour le jardinier.
En plus, ça peut être assez joli. Hein.
Ça peut être joli, en plus, on peut intégrer l'esthétique dedans.
C'est bien mis en place, ouais.
Après, la seule chose qui est un peu dure pour le jardinier, c'est qu'il y a une petite notion de temps, quoi. Avant qu'il y ait un crapaud ou un hérisson qui se mette dans ma haie de benj, là, il faudra peut-être 2-3 ans. Et le jardinier, lui, il voit plus à 2-3 mois. Et encore, souvent, c'est 2-3 jours ou 2-3 semaines, quoi. Donc, il faut apprendre aussi à respirer, et puis à regarder, observer, voir comment ça évolue. C'est aussi faire preuve d'humilité, quelque part. C'est réfléchir un peu à ses attentes et se dire aussi que ce n'est pas très grave. Et que si dans un endroit, il y a un tas de pelouses, ce n'est pas très grave. Et puis Philippe, il explique très bien. Le dessus, après, on met des courges, on met des cosmos et ça pousse super bien derrière. Mmh. C'est toute la magie. Et quand il y a de la matière organique comme ça, souvent, il n'y a pas à désherber en plus. Donc, il y a moins de contraintes pour le coup.
Et puis moi, ça me permet de masquer des fois des grillages un peu moches. Et au premier plan, du coup, c'est une forme d'andin. Et au final, c'est des branches. Moi, j'ai tendance à sabrer quand même un petit peu à la tronçonneuse pour qu'on ne se retrouve pas avec des volumes de dingue. Et puis d'alterner un peu d'herbe, des feuilles, des branches. Et par contre, c'est la forme. Je trouve que voilà, faut pas les mettre en vrac. Faut vraiment bien les mettre.
On aligne ses branches, c'est vrai.
Et puis, trouver la bonne place.
Ah, c'est plus facile quand on a du bambou, par exemple. Enfin, moi, je l'ai fait avec du bambou, c'est plus facile.
Ouais. Pour la tronçonneuse, non.
Ah non. Alors, sinon, mais justement, à propos de ces branches, on peut aussi les broyer et les utiliser en ce qu'on appelle bois raméal fragmenté, c'est ça, en paillis. Ouais. Mais alors, amener une broyeuse, c'est pas toujours simple. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là pour les particuliers qui n'ont pas de broyeuse?
Ou des petits broyeurs, mais c'est vraiment des jouets, quoi.
Ouais, c'est ça, les petits broyeurs, ça marche pas, vous êtes d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, là?
Il y a eu une expérience, c'est où, à Plouéderne ou Ploudiry, je sais plus. Là où ils ont essayé à un moment de proposer à ce que les gens viennent encore en déchetterie, mais qui proposent un broyeur un peu conséquent, et les gens sont repartis avec du broyat. Et donc, c'est une expérience. Est-ce qu'elle va pouvoir se renouveler? Comment c'est? Oui, il y a le problème de cet équipement de taille un peu efficace, quoi.
Ouais.
Pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé de solution idéale, quoi.
Ouais, donc c'est vrai que c'est un questionnement qu'on trouve sur tous les territoires. Hein. Un petit broyeur, c'est bien parce que c'est accessible financièrement, encore que. Mais techniquement, c'est compliqué, c'est pas très efficace. Un gros broyeur, c'est bien. Gros, hein. C'est bien parce que c'est efficace, mais financièrement, c'est pas accessible. Donc, il faut partir sur une notion de collective là-dessus. Alors, s'équiper au sein d'un quartier, après, la gestion de biens communs, faut réussir à le gérer, quoi. Ça se fait, mais faut accepter cette contrainte-là aussi. Ça peut être délégué à une association. Il y a des associations qui ont des broyeurs mis à disposition pour leurs adhérents. Ça peut être une structure qui transporte un broyeur d'un endroit, qui passe dans les quartiers avec un broyeur, avec un planning. Sur certaines collectivités, c'est des aides à la location de broyeurs. Donc les gens, s'ils vont louer un broyeur, une partie est prise en charge par la collectivité. Dans d'autres endroits, c'est effectivement rester sur les structures en place, c'est-à-dire la déchetterie, et que les gens viennent avec leurs matériaux, et que les matériaux soient broyés sur place, et ils repartent avec. Donc il y a plein de formats disponibles, quoi.
Et ce broyat, on le met où alors, là, pour parler technique de jardinage, ça sert à quoi?
Alors technique de jardinage, en fait, c'est simple. Dans le jardin, on peut suivre... comme exemple, des modèles qui existent très très bien, qui sont les modèles qu'on trouve dans la nature. La nature, elle jardine très très bien. Et quand on observe un peu la nature, on voit qu'en fait, le sol, il est tout le temps couvert. Tout le temps. Donc en fait, on peut reprendre ce modèle-là dans le jardin. Et tous ces, ce qu'on appelle déchets, eh ben, on les transforme en matériaux de couverture. En fait,
de paillage, en fait. Quoi,
et là, ça va être du paillage qui va servir à couvrir le sol. C'est le grand souci du jardinier, les incohérences du jardinier, c'est que le jardinier, il va aller récupérer ses tontes de pelouse pour les emmener à la déchetterie, et puis après, il va passer à la jardinerie, acheter un sac de paillage, souvent assez cher, pour les remettre. Et en fait, ces paillages-là, en plus, ils sont moins efficaces que les tontes de pelouse ou les feuilles mortes ou les branchages. Donc, le plus simple, c'est de récupérer le matériau et l'utiliser directement dans le jardin et le couvrir le sol. jusqu'à avoir une bonne épaisseur. Donc un paillage, on dit, on peut aller jusqu'à 10 cm sans problème. C'est même recommandé d'être à plus de 5 cm et ainsi de suite. Avec, en fonction des matériaux, on n'a pas toujours la même approche. Des tontes de pelouse, on fait des petites couches répétées. Des feuilles mortes, on peut mettre une couche épaisse. Du broyat, on peut mélanger avec des tontes. On peut faire plein de choses. Mais restituer ça au sol et couvrir le sol. Et après, il y a plein d'avantages. Ça garde l'humidité dans le sol il reste aéré, ça stimule la vie du sol, il y a moins d'herbes qui poussent, donc c'est des avantages pour le jardinier, mais il y a des avantages sur l'écosystème parce que ça sert d'abri pour plein de bestioles aussi. Ça fait de la terre nue, il n'y a personne qui peut se cacher dans de la terre nue, alors que s'il y a du paillage, il y a plein de bestioles qui peuvent se cacher dedans. Et puis après, il y a aussi des avantages plus globaux qui sont comme aujourd'hui, on parle de problèmes de carbone et de stockage carbone et remettre du carbone dans le sol. Bah, le paillage, ça participe à ça aussi. Et là, on touche une échelle qui est beaucoup plus importante.
Et on peut broyer n'importe quoi. Enfin, est-ce que s'il y a pas des essences qui sont un peu déconseillées
Bah oui et non. Il y a toujours la problématique avec les résineux. On dit pas mal de choses sur eux, mais c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Après, il y a un principe qui est simple, hein, c'est diversité. Et si un coup on met du résineux, après on met des tontes de pelouse, après on met des feuilles mortes, qu'on est dans une approche de diversité, et ben ça se régule. Le jardin, il accepte très bien la diversité. Si par contre je mets 15 cm de résineux et que je réapporte ça régulièrement, oui, ça peut poser des soucis là.
D'accord. Ouais. Philippe Lebaudic, sinon vous avez, comment est-ce que vous incitez vos employeurs, comme vous dites, à composter? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites concrètement là-dessus?
Le point de démarrage, souvent, c'est les fleurs. S'il n'y a pas un résultat, c'est pas évident de trouver une motivation, quoi. Et après, au niveau du compostage, c'est rarement bien réalisé, quand même, honnêtement. Parce qu'il y a toujours une méfiance. Une méfiance par rapport aux bestioles, aux souris, aux rats, aux odeurs, surtout les odeurs, alors que clairement, un composteur équilibré, ça n'a aucune odeur. Dès l'instant où on respecte les deux principes, carbone, azote, fibre, le vert, le brun, il n'y a absolument aucune odeur. Et puis même, je trouve ça assez rigolo, moi, de voir un composteur qui est en pleine vie, où ça se dégrade très, très vite. Et c'est même motivant de rajouter des choses. Nous, d'ailleurs, à l'échelle de notre quartier, on est trois petites maisons à mettre tous les éléments dans un composteur. Et on n'arrive jamais à les remplir. Et pourtant, même temps en temps, on apporte beaucoup d'herbes qu'on vient chercher ailleurs. Et il n'y a pas d'odeur. Parce que les gens font rarement beaucoup de potager, donc ça les embête. Ils se disent, ça ne sert à rien de faire du compost, parce que j'en ai pas besoin. Et j'essaie de leur expliquer, au niveau de la poubelle, c'est moins gras, il y a moins d'odeur. On peut garder le sac poubelle plus longtemps, il n'y a pas de souci d'odeur. Et puis, c'est à travers les fleurs. Souvent, c'est ça, les annuelles. J'aime bien mettre soit des cosmos, soit d'autres fleurs de printemps et d'été. Et typiquement, avant, j'avais tendance à bêcher pour préparer et semer. Et maintenant, la technique pour moins me fatiguer, j'anticipe. Je mets un tas d'herbes un peu épais, en fait, qui va faire en sorte que l'herbe elle meurt en dessous, et ça va apporter plein d'éléments nutritifs. Et en fait, j'ai pas besoin de bêcher la terre, j'ai juste à gratter, à retirer l'herbe, gratter rapidement la terre avec un croc, une petite griffe, je sème.
Vous mettez pas du compost en plus
Non, mais il n'y a même pas besoin. Je dépose l'herbe qui m'a servi de couverture, idéalement quand même quelques mois. Je gratte, je sème. Et là, cette année, j'ai fait que ça, j'ai pas bêché, moins mal au dos, et le résultat, plus que correct. Après, à rééditer, à voir si c'est toujours miraculeux ou pas, parce que dans le jardin, il faut toujours se méfier des choses miraculeuses. Faut tester, essayer, pas faire trop grand, voir le résultat, et comme ça, j'arrive petit à petit, au niveau de mes employeurs, à un début de progrès. Bon, il y en a pour qui le progrès, j'ai pas trop d'espoir, mais
il faut garder espoir.
Mais voilà, ouais. Sur la plupart, c'est pas mal.
Ouais. Et Charlie Rio, ouais, le compost, ça reste tout un art. Enfin, c'est vrai que c'est pas si facile que ça. On se dit, c'est pas le tout d'avoir un bac, mais faut avoir des notions, quoi.
Oui, en fait, il y a trois règles. Il y a trois règles à respecter qui sont pas très compliquées. Hein. C'est, il faut que ce soit diversifié. Donc il faut mélanger des matériaux différents et des choses sèches avec des choses humides. Si c'est trop humide, ça sent pas bon. Et si c'est trop sec, ça se décompose pas. Donc faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc par exemple, un peu de feuilles mortes avec des épluchures de légumes. On est sur du sec ou de l'humide. Si on avait beaucoup de tons de pelouse qu'on voulait composter, bah faudrait rajouter par exemple beaucoup de feuilles mortes. Là, c'est compliqué parce qu'on a du volume. Mais à petite échelle, il n'y a pas de souci. Et les tons de pelouse, on les met en paillage. Et comme ça, il n'y a plus de problème là. Après, l'eau de règle, bah, c'est lié à l'humidité. Il faut que ce soit veillé à ce que ce soit humide. Donc, quand il pleut beaucoup, le couvrir.
Feuille humide, mais pas trop, quoi, en gros.
Humide, mais pas trop, ouais. c'est ça. Donc, ça, il y a un test du poing. On prend du compost dans la main, on serre. S'il y a de l'eau qui coule, c'est que c'est trop humide.
D'accord.
Et si on serre, ça s'agglutine un peu, c'est que c'est bon. Et puis, si on voit que ça ne tient pas, c'est que c'est trop sec. Et après, l'autre, c'est qu'il faut de l'air. Il faut de l'air et de l'humidité en équilibre pour que ça marche. Et quand ça se décompose, ça commence à se tasser un peu avec le temps. Et du coup, faut venir aérer. Donc
touiller
ça, il y a des
outils. Compost.
Tous les composts, oui.
Faut touiller son compost. C'est
oui,
ça.
On plante des bâtons dedans et puis on tire. Il y a des tiges aératrices, des gros tire-bouchons à compost. Il y a des outils maintenant qui existent, qu'on trouve dans le commerce.
Oui, une fourche.
Qui marche bien. Une fourche, mais ouais. dans un petit silo, là, c'est pas dans
facile.
Un petit bac,
ouais.
C'est pas facile avec la fourche. Mais si c'est en tas ou des choses comme ça, ça marche bien, ouais. Mais c'est ça, il faut que les matériaux soient divers, qu'ils soient mélangés, qu'ils soient aérés et qu'il y ait de l'eau. Ouais, c'est ça, les secrets du compost.
Et que du végétal, pas de matériaux carnés.
Si, on met tout, tout ce qui vient du vivant va se décomposer.
Ouais,
après, c'est juste que si on met de la viande, il faut mettre à l'intérieur du compost, donc on fait un petit trou, on met la viande et on recouvre, et c'est très vite décomposé. Parce que si on met sur le dessus, ça attire les mouches, ça attire les bestioles, avec des épluchures de langoustines, là, ou de crevettes. Si on vide sur le dessus, ça sent très mauvais assez vite. Alors que si on met en contact avec l'intérieur, c'est très, très vite.
Quoi.
En 3-4 jours, c'est décomposé. Hein.
Parce que ça chauffe à l'intérieur.
Et parce qu'il y a de la vie. C'est vraiment la vie qui est importante.
Et alors, il y a un autre problème des déchets qui ne sont pas verts, ceux-là, mais qui sont vraiment associés au jardin, malheureusement. C'est tous ces sacs en plastique, c'est vrai, qu'on retrouve quand on va chercher un terreau en déchetterie. Il y a toujours des particules de plastique. Alors ça, c'est un peu aussi votre combat, Philippe Lebaudic.
Oui, notamment les pots. Les pots, j'en trouve...
Des pots de fleurs.
Des pots en plastique, ouais, c'est ce que je trouve le plus. Ouais.
Les godets, ouais.
Les godets, ouais. Et de toutes les tailles, hein, même un pot de 20 cm, pour les personnes, visiblement, ça leur paraît pas bizarre. Parce qu'autant des fois, sur le tri sélectif, on peut avoir des doutes. Mais là, on est sur du végétal. Un gros morceau de plastique, non, c'est pas un problème, encore pour certains.
Alors que c'est un problème pour les déchetteries, parce qu'en fait, ils font pas le tri en déchetterie.
Non, ils peuvent pas, concrètement. Il y a des grosses machines. Le gars, il arrive avec son chargeur, un broyeur. C'est des investissements. Il peut pas... On a discuté ensemble, un coup je me suis retrouvé au moment où il devait aller broyer, on lui a demandé de commencer de ramasser les plastiques qu'il voyait avant de...
Ouais, c'est trop...
Ça faisait une heure qu'il était là, il n'avait pas démarré ses machines, c'est pas jouable. C'est au niveau de l'apport qu'on doit trouver une solution.
Ouais. Donc à chacun déjà d'éviter d'apporter des godets quand il y en a, et à la limite d'éviter d'utiliser des godets en plastique. Il y a d'autres solutions, c'est ça, non?
Ouais, après, les godets, c'est quand même pratique pour démarrer les plantes ou quand on achète des plants ailleurs, c'est pratique. Mais bon, on peut les réutiliser, les stocker. Après, il faudrait peut-être trouver une solution pour que des pépinières les récupèrent. Je ne sais pas si c'est jouable, s'ils ont envie de s'embêter avec ça.
Pour démarrer des petits plants, on peut faire des godets en papier journal. Enfin, moi, j'ai testé, ça marche très bien.
Ouais.
Bon, pas au niveau professionnel, mais au niveau des particuliers, en tout cas, c'est faisable. Charlie, oui.
C'est vrai que le plastique, pendant longtemps, on a dit que c'était fantastique. Mais au bout d'un moment, on commence à se rendre compte qu'il y a des soucis. Sur ces choses-là, souvent, le jardinier, il va essayer d'aller au moins cher. Donc, il y a des gammes de qualité différentes. Hein. Et on voit dans les godets, il y a des godets qui tiennent longtemps, qui sont costauds. Il y en a d'autres, après une utilisation, on appuie dessus, ils se cassent en deux, ça ne tient pas du tout parce que le plastique est de mauvaise qualité. Il y a aussi les bâches, l'utilisation des bâches au jardin. Toutes les haies avec des bâches et tout ça, au bout d'un moment, ça commence à se décomposer. Mais en fait, ça ne se décompose pas, ça se fragmente. Et ça donne des morceaux de plus en plus petits. Et quand on met un godet dans... on taille un peu une haie, on nettoie un peu le jardin, on a un godet, il part dans la remorque, on arrive à la déchetterie, c'est vidé, on fait pas gaffe. Tout ça s'est mis en tas avant d'être broyé, et le godet il passe dans la broyeuse, et donc il se retrouve en micro-morceaux qui après vont se retrouver dans l'environnement. Et ça commence à poser des gros soucis, parce que ça se dégrade pas dans l'environnement. Enfin, ça se dégrade, mais ça va mettre des milliers d'années à se dégrader. Hein, donc ça s'accumule petit à petit sous des formes de plus en plus petites. On retrouve dans l'eau, dans la mer.
On les mange à la fin.
Ouais, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on mange une carte bancaire par an.
Ouais, c'était 5 grammes par semaine. Enfin, il y a plusieurs chiffres. C'est vrai que c'est difficile d'avoir
chiffres,
les.
Mais de toute façon,
on en ingère du plastique. On a fait une émission là-dessus récemment. Bon, bah, on va devoir s'arrêter là, même s'il y aurait encore beaucoup à dire, sans doute. Merci à tous les deux.
Merci. Au revoir.